Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes aujourd'hui le 3 mars 2023. Aujourd'hui, on va faire comme d'habitude notre point habituel sur les marchés, sur les asset class, sur le SMI, sur la Suisse, enfin sur tout ce qui se passe un petit peu dans la région. Et puis, on va faire évidemment le tour aussi sur notre portefeuille. Vous savez, les idées Swiss Bliss du début de l'année que j'avais mis en place, je les ai un peu oubliées depuis 2 semaines. Donc, je reviens dessus aujourd'hui et je commence par ça, comme ça. On pourra pas dire que je l'ai pas fait, et puis je suis sûr pas de l'oublier à la fin pendant que je suis en train de tourner la vidéo. Donc on attaque tout de suite avec le Swiss Bliss, le générique, et après le générique, les idées du Swiss Bliss. Alors si on regarde les idées du Swiss Bliss, bah, souvenez-vous, donc on avait du Crédit Suisse, du Gebery, de la Zurich Assurance, de la Swiss Re et de la Roche. Et si on regarde notre PNL, ce qui est l'avant-dernière colonne à droite, eh bien en pourcentage, hein, donc on perd 7,4% sur le Crédit Suisse, 7,8% sur le Bon Roche, on gagne 12,5% sur Swiss Re, 19,19% sur Gebery et on ne fait rien sur la Zurich. Alors je rappelle pour mémoire que j'avais acheter des Swiss Re, des Zurich et des Gebery entre autres pour le dividende, mais surtout la Zurich et la Swiss Re, que j'avais acheté le Bon Roche parce que je crois absolument au Bon Roche. D'ailleurs, si je me retenais pas, j'en rachèterais aujourd'hui parce que je suis persuadé qu'à un moment ou un autre, ce truc va remonter en direction des 350. Il faut juste être patient. Et puis, ben pour le reste, et ben le Crédit Suisse, hein, c'est un peu l'éternelle histoire du Crédit Suisse. Où est-ce qu'il va s'arrêter de baisser, puisqu'on va le voir tout à l'heure dans les détails de la semaine, que le Crédit Suisse s'est encore pris une tôle monumentale, et puisqu'on va toujours chercher plus bas, parce que oui, c'est encore possible d'aller chercher plus bas, même si au début, on avait l'impression que on avait bien acheté en début d'année. Néanmoins, je reste convaincu que sur le côté spéculatif du Crédit Suisse, il y aura quelque chose à jouer dans les semaines qui vont venir ou dans les mois qui vont venir, parce que ça ne va pas s'arrêter comme ça. Donc voilà ce qu'on peut dire de ce PNL. L'un dans l'autre, eh bien, on fait du 3,74% depuis le début de l'année. C'est pas Byzance, mais encore en même temps, ça reste le marché suisse. Et quand on voit comment le marché suisse se comporte en ce moment, eh bien, on a connu des périodes un tout petit peu plus fastes. Revenons maintenant à nos marchés, à notre situation actuelle, de ce qui se passe dans le monde. Dans le monde aujourd'hui, on traverse une période extrêmement compliquée qui est la gestion de l'inflation via la hausse des taux, le comportement des banques centrales et ce que vont faire nos amis, les banquiers centraux, pour essayer de résoudre le problème, pour autant que l'on puisse résoudre ce problème. Donc cette semaine, on avait encore une fois beaucoup de choses. Tout d'abord, il fallait qu'on digère les chiffres du PCE de la semaine dernière. Rappelez-vous, le Swiss Bliss de la semaine dernière, on en avait déjà beaucoup parlé. Clairement, eh bien, ce chiffre qui est considéré comme une meilleure indication d'inflation aux États-Unis que le CPI ou que le PPI, eh bien, ce chiffre-là montre clairement que sur une année, eh bien, on n'est pas en baisse. Au contraire, on est plutôt en hausse sur l'inflation américaine. Même chose qui est sortie cette semaine, pas plus tard qu'hier en Suisse, en Europe, pardon. La Suisse est un peu un cas à part, mais en Europe, on s'est rendu compte effectivement que le core CPI, que le core l'inflation de base, donc celle qui exclut l'énergie, tout ça, machin, eh bien, était et globalement toujours relativement en hausse par rapport à l'année passée. Donc, en gros, on voit que cette thématique est ce que l'on cherche à faire depuis quasiment début 2022, à savoir faire baisser l'inflation en montant massivement les taux, eh bien, pour l'instant, ça ne marche pas ou ça ne marche plus. Ça a marché pendant un temps, mais aujourd'hui, là, on arrive à un niveau dans la zone des, allez, on va dire 5,5% pour le core CPI en Europe. Ben ça baisse plus. Ça baisse plus. Alors, on sait que la BCE va monter les taux la semaine prochaine. On sait que la BCE va remonter les taux au début du mois d'avril. Mais bon, grosso modo, pour l'instant, eh bien, on voit quand même que l'inflation ne ralentit pas comme on espérait qu'elle ralentisse. On voit aussi qu'à l'intérieur, il y a certaines parties de l'inflation qui finalement ralentissent, mais par contre, d'autres ne changent pas. Si vous regardez, par exemple, tout ce qui est denrées alimentaires, eh bien, c'est pas en train de ralentir. Il vous suffit d'allumer un soir, de temps en temps, le journal sur TF1 ou n'importe quoi comme chaîne française et vous verrez des reportages sur les marchés où les gens sont en train de nous dire que finalement tout a explosé à la hausse et que certains ne peuvent plus acheter certaines denrées parce que c'est devenu trop cher. Donc l'inflation pour l'instant n'est pas en train de ralentir et tous les effets et tous les efforts déployés et mis en place par les banques centrales pour l'instant ont fonctionné, mais ne fonctionnent plus aussi bien. Et c'est là où on s'interroge pour savoir quelle sera la suite. Parce qu'on sait aujourd'hui que quand on met en place un système de lutte contre l'inflation, à savoir une hausse des taux, on sait qu'il y a une inertie. Vous savez l'histoire du paquebot qui rentre dans un port. Si vous freinez à 100 mètres du bord, il y a une forte chance que vous vous écrasiez contre le port, que vous finissiez sur la terrasse du café qui est à l'entrée du port et pas du tout à quai pour débarquer vos passagers. Donc il y a un effet retard. Et donc l'inflation aujourd'hui est toujours relativement solide, mais ce qu'on ne sait pas, c'est si par hasard, potentiellement, eh bien, on pourrait avoir, des bonnes surprises dans ces prochains mois, parce que finalement, ça commence à fonctionner. D'ailleurs, c'est un peu la réaction positive que l'on a eue sur les marchés hier, par exemple, puisque finalement, on a eu un membre de la Fed américaine qui est venu nous dire que peut-être que finalement l'effet sur l'inflation, on le ressentira le mois prochain ou dans deux mois, parce qu'il y a cet effet d'inertie. Et ça nous a rassuré. Le seul problème, c'est qu'à un moment donné, peut-être que ça ne fonctionnera pas. Et c'est une des grandes questions qui se posent aujourd'hui. Il y a plusieurs courants économiques qui viennent aujourd'hui dans les marchés et dans la finance mondiale, qui viennent nous dire « Oui, mais en fait, l'inflation telle qu'on la connaît, eh bien, elle va peut-être rester simplement à des niveaux élevés, dans une zone de 5%, ce qui n'est pas du tout escompté par la Fed, ce qui n'est pas du tout escompté par la BCE. » Non, nous, aujourd'hui, la BCE, la Fed, les banques centrales veulent voir revenir l'inflation en dessous des 3%. C'est ce qu'ils veulent. Mais imaginons aujourd'hui un monde dans lequel l'inflation finalement ne baisserait plus comme avant et elle se contenterait de rester à 5%. Est-ce que ça voudrait dire que finalement les taux directeurs doivent eux continuer à monter aussi en direction de au-dessus de 5% ou peut-être simplement rester à 5,5% pendant une année, deux ans et demi. C'est pas du tout ce qu'on a prévu aujourd'hui dans les marchés, hein. Mais pour l'instant, on se raccroche à ça et on espère que les déclarations de M. Bostich étaient correctes, étaient vraies et que finalement, c'est vrai qu'on va avoir cet effet positif au niveau de l'inflation dans les mois qui viennent. J'ai envie de dire les semaines parce que je ne suis pas sûr qu'on arrive à tenir le coup aussi longtemps que ça sans vraiment bonnes nouvelles rassurantes du côté de l'inflation. Donc voilà, en gros, le résumé de cette semaine, de cette dernière semaine de février qui était à cheval sur le début du mois de mars, eh bien, on a été très 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 concentré sur l'inflation. On n'a eu que des mauvaises nouvelles, donc qui laisse supposer finalement que les taux vont continuer à monter. Alors pour l'instant, on est rassuré parce qu'on devrait monter de 0,25 lors du prochain FOMC meeting qui aura lieu le 21 et le 22 mars. Et puis qu'ensuite, on va continuer à monter de 0,25%. C'est ce qu'on escompte pour l'instant. Il faudrait juste pas qu'en cours de route, qu'on arrive à se rendre compte qu'il va falloir monter les taux beaucoup plus agressivement pour avoir un résultat concret ces prochains temps. Donc voilà où on en est un peu aujourd'hui. C'est un marché qui était vraiment axé sur cette thématique cette semaine. En début de semaine, on a joué un rebond parce qu'on s'est dit qu'on avait beaucoup baissé la semaine dernière. Les indices se retrouvent à des niveaux relativement délicats en termes de points de support. Je parle surtout pour la Suisse ou pour les États-Unis, par exemple. Les marchés européens, c'est différent parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, de toute façon, chaque fois qu'on dit un truc positif pour la Chine, la France prend 2% et LVMH prend 4%, ce qui va rendre la vie très compliquée à M. Musk si un jour il veut redevenir l'homme le plus puissant du monde, le plus riche du monde, puisque M. Arnaud est en train de s'en aller très très loin. Et globalement, eh bien, on est vraiment axé sur cette thématique de l'inflation. Et franchement, pour être très honnête avec vous, aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Ce qui est impressionnant, c'est que les marchés sont extrêmement résilients. C'est le mot à la mode, hein, résilient. Pour l'instant, on ne baisse pas et on reste extrêmement solide dans nos baskets parce que finalement, on est convaincu que ça ira mieux demain. On a un côté très optimiste, comme je l'ai mentionné plusieurs fois dans ces vidéos. Et je vous avoue que je suis très bearish, très méfiant par rapport à la suite des marchés à court terme. Mais force est de constater que pour l'instant, eh bien, rien n'y fait. Même les pires des mauvaises nouvelles ne veulent pas faire baisser les marchés. On va attaquer la performance des assets. Alors, pour l'instant, vous voyez, c'est une relativement bonne semaine, hein. Le S&P 500 est en hausse de 0,3%. C'est l'euphorie sur le Dow Jones des transports à 2,81% de hausse. Et puis au milieu, eh bien, ça se balade un peu partout, hein. Comme vous le voyez, le DAX plus 1,34%, le CAC plus 1,68%. Et puis finalement, les marchés qui vont mal, eh bien, c'est le SMI qui est quand même, mis à part le Brésil qui a un peu un marché à part, mais le SMI qui est le pire marché du continent européen cette semaine avec une baisse stratosphérique de 0,16%. Et puis le Bitcoin qui perd 3,6%, mais comme il en a pris plus ou moins 10 la semaine dernière, c'est pas très important. Et puis comme tout le monde sait que d'ici 2030, comme disait Madame Katie Wood, le Bitcoin sera à 1,5 million. Il n'y a pas trop trop de questions à se poser de ce côté-là. Le meilleur moyen que vous puissiez faire pour devenir très très riche et prendre votre retraite le 1er janvier 2031, c'est d'acheter du Bitcoin. Alors prenez un call Bitcoin avec un strike à 1 450 000, échéance décembre 2030, et vous serez très 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 riche eh bien, le lendemain du nouvel an. Si je prends les perfs du SMI, bien entendu dans les losers de la semaine, on a le Crédit Suisse qui était le winner de la semaine dernière, donc 5,7%, 5,8% quasiment de baisse pour le Crédit Suisse. Alcon qui a publié ses chiffres, on y reviendra tout à l'heure, et puis Swiss Life qui a également publié ses chiffres, qui est le gros vainqueur de la semaine devant Holcim qui également s'en sort relativement bien, là aussi avec des chiffres positifs et pas mal de recommandations à l'achat de la part de certains brokers en Suisse en ce moment. Et puis Richemont en troisième position, on peut facilement trouver une justification à la hausse de Richemont. C'est du luxe, alors grâce à la Chine, tout va bien. Petit tour technique au niveau du SMI. Alors comme vous le voyez en ce moment, eh bien je parlais la semaine dernière de notre fameuse tendance haussière que l'on avait ici depuis le mois de septembre, tendance haussière qui a donc cédé cette semaine, hein, puisque aujourd'hui, alors ce matin on rebondit bien sûr parce que la Fed nous a rassurés, mais pour l'instant si je zoome un peu sur la situation, eh bien on a cassé cette tendance haussière, on est allé rechercher la moyenne mobile des 50 jours, aujourd'hui on explose à la hausse bien sûr parce que ça va tout changer, mais grosso modo, eh bien on a quand même un SMI qui se trouve dans une situation délicate parce qu'il est en train de tester ce support, hein, qui n'est pas innocent puisqu'il date quand même du mois de septembre. Donc si on est logique en termes de tendance, eh bien on va devoir se concentrer maintenant simplement sur la tendance de fond qui passe par là, qui est toujours la tendance baissière. Et si on rebondit, eh bien il va falloir non seulement revenir dans la tendance, mais après il va falloir surtout être capable de sortir par le haut pour vraiment tout casser. Mais pour l'instant, on est vraiment dans une zone qui est un tout petit peu délicate. On va dire qu'on est comme sur une espèce de balance, hein, en ce moment. On ne sait pas de quel côté ça va basculer, mais quand ça va basculer, eh bien, ça va être assez intéressant à observer. Le S&P 500 qui a rebondi, j'ai envie de dire, comme un cas d'école, hein, donc un cas d'école qui s'est exprimé hier, hein, on a vu ici, on a tenu cette tendance haussière, cette fois ce que nous on n'a pas tenu en Suisse, eh bien les Américains, eux, ils ont tenu cette tendance de fond qui passe par la moyenne mobile des 50 jours et des 200 jours qui sont en forme de Golden Cross, et le marché est reparti à la hausse. Donc c'est presque un cas d'école parce qu'on s'est arrêté où il fallait s'arrêter. On est allé tester juste en dessous pour faire le coup du faux break à la baisse. On a des stochastiques qui sont au plus bas et qui sont clairement survendus. Et donc, avec les commentaires positifs de Monsieur Bostich, eh bien, on a pu imprimer de l'argent et racheter encore une fois le marché. Donc, la logique voudrait, en tout cas, même si la rationalité économique est peut-être un peu différente aujourd'hui, la logique voudrait que le S&P reparte encore une fois tester cette zone des 4100, cette 4140 qui sera potentiellement un point de sortie. Mais pour l'instant, eh bien, on est extrêmement solide et il n'y a rien qui veut lâcher du côté du S&P. Une autre chose que j'aimerais vous montrer, c'est la VIX, la volatilité, l'indice de la volatilité. Alors, vous voyez, on est en train de, pour parler français, de ne pas foutre grand-chose depuis quelques temps. On est en train de se traîner dans cette zone là qu'on a au centre du graphique, cette zone ici. On va nulle part, on est coincé entre une vol à 24,20 et une vol à 18,30 et on oscille dans ce range là pour l'instant. Vu ce qui est en train de se passer, il y a pas mal de gens qui sont en train de dire qu'on est en train de tester, mais à un moment donné, on devrait partir à la hausse, hein, en fonction des nouvelles. Et étonnamment, par rapport à ce qui s'est passé sur l'inflation, on est même carrément étonné que sur des chiffres dégueulasses de l'inflation du PCE la semaine dernière, la vol a littéralement explosé. Et aujourd'hui, boum, on a redescendu quasiment au plus bas, alors que finalement, derrière, on a eu l'inflation en Europe qui montre que ça ne va pas mieux. Mais visiblement, on est, comme je vous le disais, dans un marché qui est indestructible. On a vraiment l'impression qu'on a une machine à passer des ordres de bourse qui revient régulièrement dès que ça baisse Un petit peu. Il y a une chose que je dois vous montrer, c'est ce graphique. Ce graphique-là, c'est les taux à un an aux États-Unis. Les taux à un an, aujourd'hui, ils sont à 5,059. Ils étaient à 5,10 il y a quelques jours en arrière. Mais on voit clairement que c'est une indication comme quoi la tendance des taux est en train de partir à la hausse. Ce qui est assez intéressant à observer sur ces taux, c'est qu'on dit que c'est plus ou moins une indication de où on verra les taux dans quelques mois. Et on peut toujours le creuser, entre guillemets, le comparer également avec le 2 ans. Et le 2 ans, vous le voyez ici, eh bien c'est encore pire. On est au plus haut. On est en train de casser les plus hauts qu'on avait fait au mois de novembre. Et quand vous regardez un peu la tendance, si vous allez chercher beaucoup plus loin sur le 2 ans, par exemple sur un graphique weekly, eh bien on se rend compte que finalement on revient à des niveaux qui sont quand même assez importants au niveau historique, puisque vous le voyez, hein, on a le rendement du 2 ans ici qui se traite là maintenant autour des 4,859, et que c'est plus ou moins le même niveau qu'on avait en 2007, crise des subprimes, c'est plus ou moins un poil en dessous de là où on était pendant le crash de l'an 2000, et vous voyez que finalement à chaque fois qu'on a fait des pics sur ces taux, eh bien, à chaque fois, derrière, c'était un petit peu compliqué au niveau des bourses mondiales. Donc, on ne va pas dire que c'est un signal. Mais peut-être qu'il faut quand même savoir garder ça en tête. Donc, dans les titres de la semaine, nous avons le Crédit Suisse, bien sûr, qui est le loser de la semaine. La raison principale, eh bien, c'est que la FINMA leur a collé une enquête sur le dos. C'est pas nouveau. Ils leur ont fait de gros reproches dans l'affaire Greens Hill, de gros manquements à leurs devoirs, blablabla. On connaît l'histoire. Le Crédit Suisse s'est félicité de cette fin d'enquête, surtout que l'enquête soit terminée, mais en gros encore des reproches, et dans la foulée, le titre continue de baisser. Je crois que pour l'instant, il faut juste pas trop se poser de questions, parce qu'on est en train de tirer sur l'ambulance, de frapper un homme à terre, et le Crédit Suisse continue à se prendre des claques monumentales. Je vous montre même pas le chart, parce que ça donne mal au vide, mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que ça continue dans la même dynamique, et que pour l'instant, c'est pas réglé, mais comme je vous l'ai dit, on accroche de cette émission, moi je joue plutôt le côté spéculatif. Le graphique que vous avez sous les yeux à l'instant, eh bien c'est Alcon. Alors Alcon a publié des chiffres qui étaient décevants, donc forcément, eh bien, on voit très clairement que ça s'est ressenti sur le graphique, hein. La correction a été sévère. Maintenant, il ne faut pas désespérer, parce que c'est des moments difficiles pour Alcon, mais grosso modo, s'il y a des exagérations en dessous de la moyenne mobile des 50 jours, peut-être que ça vaudra la peine d'essayer de se repositionner. Pour ceux qui maîtrisent un peu le concept des puts, essayez peut-être de vendre des puts avec un strike autour des 60, avec 6 mois d'échéance, parce qu'il pourrait y avoir un petit rebond, ce qui va faire que vous encaissez relativement facilement de la prime. Donc résultat décevant pour Alcon, surtout par rapport à ce qu'ils ont fait l'année dernière. Adecco a également publié ses résultats cette semaine. Grosso modo, c'est un peu un copier-coller de ce qu'ils ont fait l'année dernière. On affiche aussi une baisse de la rentabilité, le dividende qui reste stable à 2,50 francs, et puis l'intégration du franco-belge qui s'appelle AKKA, eh bien ça a pesé quand même pas mal sur la rentabilité d'Adecco, mais finalement quand on regarde le graphique, ils s'en sortent pas trop mal. Vous voyez très clairement que le graphique d'Adecco, pour l'instant, on est dans un trend haussier plutôt encourageant, et on a surtout, eh bien, une Golden Cross aussi. Vous voyez, il y en a plein partout en ce moment, c'est la saison des Golden Cross qui est en train de se dessiner aujourd'hui. En tout cas, pour quelqu'un qui fait de l'investissement à moyen long terme, eh bien ça a l'air plutôt intéressant, parce que si vous regardez un petit peu la dernière tendance qui avait été dessinée ici à cette époque-là, en septembre, eh bien on a eu derrière une grande baisse qui nous a quand même fait passer de 59,70 à 34,56. Donc si on joue la thématique dans l'autre sens, pour l'instant on a une tendance haussière qui se dessine gentiment. Après, il faudra faire bien évidemment attention à une chose, c'est qu'il n'y ait pas un ralentissement massif de l'emploi aux États-Unis entre autres ces prochains temps, sinon ça pourrait changer un tout petit peu la donne, mais pour l'instant le graphique est plutôt intéressant. Dans les chiffres positifs de la semaine, on notera aussi Kuhn & Nagel qui a satisfait, on va dire, les analystes, hein. Grosso modo, bon chiffre, belle croissance, relativement positif pour Kuhn & Nagel. Ça se ressent donc très très bien aussi au niveau du graphique, qui est en train de casser sa tendance et rentrer dans une phase potentielle d'accélération, donc assez encourageant également chez Kuhn & Nagel. Autre graphique, autre chiffre trimestriel, Swiss Life qui a publié deux très bons chiffres, un bénéfice net en hausse de 16%, une augmentation de dividendes de 5 francs encore de plus pour les actionnaires, donc ça va bien, surtout pour les actionnaires. La tendance de fond est cassée également en phase accélération en ce moment sur Swiss Life, donc tout va bien dans le secteur des assurances. On est vraiment un tout petit peu, enfin non, on est carrément suracheté pour l'instant au niveau des les stochastiques. Donc attention au retour, mais globalement, franchement, un bon trimestre encore une fois pour les financières, la financière Swiss Life. Petite nouvelle qui a trait aux pharmaceutiques indirectement. On a appris cette semaine que Genentech, la filiale de Roche, attaque Biogen aux États-Unis. Ils avaient un partenariat à l'époque concernant un médicament qui s'appelle le Tysabri. Et ce partenariat aujourd'hui a été remis en question. Mais surtout, eh bien, Genentech reproche à Biogen de ne pas avoir payé les royalties qu'il devait payer. Donc bref, ils sont en procès et comme on sait, ces procès-là peuvent durer longtemps, coûter très cher et être très très compliqué, mais il faudra le retenir. Si Genentech venait à gagner, peut-être que potentiellement ça donnerait un petit peu de bonnes nouvelles du côté de Roche qui n'arrive plus à bouger au fond du bac, comme je le disais tout à l'heure. Mais voilà, il faudra retenir quand même qu'il y a ce procès qui est en cours, donc on va certainement en reparler ces prochains temps. Et puis, on va parler rapidement de Meyer Burger. Alors, Meyer Burger a adopté une nouvelle plateforme de production pour ses produits de modules solaires. Alors, j'y connais pas grand chose, mais bref, la manière dont ils vont structurer leurs modules, eh bien, la production sera réduite un petit peu. Et puis, ça a été pris assez mal par les marchés. Sur la nouvelle, le titre a perdu 14%. Mais ce qu'il faut surtout retenir, et au-delà, finalement, de cette mauvaise nouvelle, c'est que c'est dans une volonté d'amélioration que Meyer Burger a mis les choses en place. Et si on lit un petit peu à droite à gauche les recommandations qui ont été faites par les analystes, eh bien, on est dans une situation qui est plutôt intéressante et il faudrait rester positif. Et donc, ça tombe bien parce que vu que le titre a beaucoup baissé, il y a peut-être une opportunité de rechoper le train dans cette tendance haussière qui reste, malgré la correction, relativement bien affirmée sur le graphique. Alors, vous le voyez, il faut toujours prendre les choses un peu avec des pincettes, mais on a quand même une tendance haussière qui se dessine latéralement ici, enfin, de cette manière légèrement haussière. Et puis après, on avait l'autre qui était un peu plus raide. Alors là, ça a été cassé, bien sûr. Ce que je retiendrai positivement, c'est que pour l'instant, on est revenu sur la moyenne mobile des 50 jours. Donc je veux bien croire que cette production est décevante. Mais quand on voit les commentaires des brokers, je suis pas sûr qu'on revienne jusqu'ici, jusque sur la tendance de base. Et peut-être qu'on va s'arrêter dans cette zone-là entre 0,49, 0,50 avant de repartir à l'assaut. Donc pour ceux qui ont envie de jouer quelque chose relativement rapidement, mais aussi sur le long terme, eh bien un Meyer Burger semble relativement bien déterminé, bien positionné pour repartir, parce qu'encore une fois, je ne suis pas spécialiste ni analyste financier, mais on a quand même le sentiment que c'est pas si catastrophique que ça, puisqu'il y a une volonté de faire mieux après. Voilà ce que l'on pouvait dire grosso modo sur ce Swiss Bliss, le premier Swiss Bliss de mars. Il faut quand même reconnaître qu'on vit une période assez particulière, surtout sur le SMI, on a vraiment l'impression qu'il y a très très peu d'intérêt. On voit le niveau du Bon Roche, on voit le niveau de Novartis, on voit les problèmes du Crédit Suisse, on voit que Nestlé ne fait plus grand chose. C'est clair que quand vous avez les bancaires qui sont un peu au milieu de nulle part, surtout au milieu de nulle part pour le Crédit Suisse, Roche et Novartis qui sont sur le bas du range et qui ne font rien, Nestlé qui ne fait pas grand chose, on ne peut pas systématiquement compter sur les assurances pour tirer le SMI. Néanmoins, pour ceux qui sont relativement bien positionnés sur le secteur des assurances, ça reste bien évidemment un secteur très intéressant. Les chiffres sont globalement bons, les dividendes sont extrêmement élevés. Et dans cette période-là, j'ai envie de dire que sur la Suisse, il faut se raccrocher aux dividendes et puis attendre finalement qu'on revienne dans la période des pharma. Parce que pour l'instant, on est vraiment, mais ce n'est pas uniquement en Suisse, hein, c'est globalement dans le monde entier, où finalement plus personne ne veut de pharmaceutique. On a l'impression qu'on ne va plus jamais être malade ces prochaines années. Et après le Covid, on n'a plus trop envie d'investir dans ce genre de thématique là. Mais pourtant, et bien évidemment, ça va revenir, hein, et les gens vont se reconcentrer sur ce type de valeur. Et on arrive surtout à des valorisations, que ce soit sur Roche ou sur Novartis, à des niveaux bas du range, pas cher depuis des années. Il faut quand même signaler que Roche est au même niveau que là où nous étions en pleine crise Covid. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive gentiment à des niveaux relativement intéressants. Maintenant, c'est vrai que si on regarde la dynamique du marché, cette volonté de croire que les choses vont s'améliorer à toute vitesse et que finalement, eh bien, les taux vont faire leur office, l'inflation va être maîtrisée, elle sera sous contrôle et à terme, les banques centrales vont commencer à baisser les taux et la techno va exploser. C'est clair que le SMI, c'est pas l'indice préféré du moment. Mais néanmoins, pour les gars qui font du défensif, pour ceux qui ont une vision vraiment long terme, je ne parle pas d'une année, je parle de 4-5 ans à ces niveaux-là, Si vous pouvez accumuler des pharma, ne vous posez pas trop de questions. On sait que Novartis finit toujours par remonter à 86 et on sait que Roche redevient systématiquement une star dans les marchés. Je serais étonné que ça soit différent cette fois. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette semaine de bourse, sur cette semaine en Suisse et dans le monde à notre connaissance, comme disait Pierre-Pascal Rossi. Moi, je vous encourage comme d'habitude à liker cette vidéo, à vous inscrire sur la chaîne Swissquote en français. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live, pour une nouvelle semaine de bourse qui sera écourtée en ce qui me concerne, parce que oui, aussi fou que ça puisse paraître, je vais prendre des vacances. Je serai là jusqu'à mercredi, mais après, je ne serai plus là pendant quelques jours. Il n'y aura donc pas de Swiss Bliss la semaine prochaine. Ce sera repoussé à la semaine d'après. Mais d'ici là, passez un excellent week-end et on se reparle de toute façon lundi matin dans le Morning Bull Live. Bye bye.